Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, 6e épisode, la Gaule chrétienne.
La Gaule chrétienne. Notre exposé concernera d'abord le temps des persécutions, puis les 4e et 5e siècles, pendant lesquels trois villes, trois centres de rayonnement, Arles, Poitiers et Tours, auront joué un rôle prédominant. Enfin, nous parlerons de l'Église sous les Mérovingiens. L'histoire de la Gaule chrétienne commence à Lyon, en 177, sous Marc Aurèle, par un bain de sang. Nous connaissons bien les faits grâce à la relation qu'en firent les rescapés aux communautés chrétiennes d'Asie et de Phrygie, d'où une bonne partie des membres de l'Église de Lyon étaient originaires. Et l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe reproduit cette relation. Le scénario est classique. La haine des païens dénonce les chrétiens au pouvoir public, on les soumet à la torture pour qu'ils apostasient, quelques-uns défaillent, mais le courage du plus grand nombre dans ce cas est si grand que ceux-là même se reprennent, se proclament chrétiens et meurent eux aussi en proclamant leur foi. Nous tenons la liste de 48 victimes. Le calendrier liturgique a retenu les noms de Potin, l'évêque nonagénaire qui mourut exténué dans sa prison, et de Blandine, la jeune esclave, chétive et maladive, sur qui s'acharnèrent les bourreaux et qui subit des tourments incroyables. Ce qui frappe en effet dans la persécution que subit l'Église de Lyon, c'est la cruauté des tortionnaires. Lisons par exemple ce qui concerne Sanctus, le diacre de Vienne. Lui aussi, comme Blandine, se montrait supérieur à tout ce qu'on pouvait lui faire subir. Les méchants espéraient que grâce à la durée et à la grandeur des tourments, ils entendraient de lui des paroles de faiblesse. Mais il s'opposa à eux avec une telle constance qu'il ne leur dit ni son propre nom, ni celui de son pays, ni celui de la cité d'où il était, ni s'il était esclave ou libre, mais à tout ce qu'on lui demandait, il répondait « Ego sum Christianus »« Je suis chrétien ». C'était là ce qu'il confessait successivement à la place de son nom, de sa cité, de sa race, à la place de tout, et les païens n'entendirent pas de lui d'autres paroles. Aussi, y eut-il une grande émulation du gouverneur et des bourreaux contre lui, si bien que ne sachant plus que lui faire, ils finirent par appliquer des lames de cuivre rougies au feu aux parties les plus délicates de son corps. Celles-ci brûlaient, mais lui demeurait inflexible, inébranlable, ferme dans la confession, rafraîchi et fortifié par la source céleste de l'eau vivifiante qui sort du côté du Christ. Son pauvre corps était le témoin de ce qui est arrivé, tout entier blessure et meurtrissure, contracté, privé de l'apparence d'une forme humaine. Le Christ, qui s'ouvrait en lui, accomplissait de grands prodiges. Il écrasait l'adversaire. Et pour l'exemple des autres, il montrait qu'il n'y a rien de redoutable là où est l'amour du Père, rien de douloureux là où est la gloire du Christ. Quelques jours après, en effet, les méchants recommencèrent à torturer le martyr. Il pensait qu'ayant les chairs enflées et enflammées, il serait finalement vaincu par eux s'il renouvelait les mêmes tortures, car il ne supportait même pas le contact des mains. Ou bien que s'il expirait dans les supplices, sa mort effraierait les autres. Non seulement rien de pareil ne se produisit à son sujet, mais contre toute prévision humaine, le pauvre corps de Sanctus se remit et se redressa dans les supplices qui suivirent. Il reprit sa première forme et l'usage de ses membres, de sorte que la seconde torture, par la grâce du Christ, ne fut pas pour lui un châtiment, mais une guérison. Un peu plus tard, Sanctus, et avec lui Maturus, Blandine et Attale, furent conduits aux bêtes dans l'édifice public pour être un commun spectacle de l'inhumanité des païens. Ce jour-là, les combats de bêtes furent donnés par le moyen des nôtres. Maturus et Sanctus passèrent de nouveau dans l'amphithéâtre par toutes sortes de tourments, comme s'ils n'avaient absolument rien souffert auparavant, ou plutôt comme des athlètes qui ont déjà vaincu l'adversaire à plusieurs reprises et n'ont plus qu'à lutter pour la couronne elle-même. Une fois de plus, ils furent passés par les verges, selon les usages du pays, traînés par les bêtes, soumis à tout ce qu'ordonnait un peuple en délire par ses clameurs, chacun hurlant de son côté. On finit par la chaise de fer, sur laquelle les chairs grillées exhalaient une odeur de graisse. Mais les païens, même ainsi, n'étaient pas encore assouvis. Ils devenaient de plus en plus furieux, voulant vaincre la constance des martyrs. De Sanctus, ils n'entendirent pas d'autres paroles que celles qu'il avait pris l'habitude de répéter pour confesser sa foi depuis le commencement. Les martyrs, donc, comme leur vie se prolongeait encore après un long combat, furent finalement égorgé. C'est dans Eusèbe, Histoire ecclésiastique, au livre 5, chapitre 1. Quel courage et quelle foi! Un mot, un geste suffirait pour les soustraire à tant de souffrances atroces. Leur attachement au Christ et à leurs frères est assez grand, assez immense, pour leur permettre de tout supporter. Les martyrs de Lyon et de Vienne ne sont pas les seuls de la Gaule du temps des persécutions. Parmi d'autres, Patrocle à Troyes, Denis à Lutèce, ont versé leur sang avec éclat. Il n'empêche que Lyon signe la première page chrétienne de l'histoire de notre pays. Cette ville est notre première métropole. Monseigneur Duchesne va jusqu'à penser qu'il n'y a pas eu en Gaule d'autre évêque que celui de Lyon jusqu'au milieu du IIIe siècle. Quoique nous soyons dépourvus des témoignages qu'il assure, nous devons tout de même penser que des communautés chrétiennes s'implantèrent en Gaule avant le milieu du IIe siècle. Partie intégrante de l'Empire depuis 200 ans, reliée à Rome par un commerce important, ouverte sur la Méditerranée par de grands ports et parcourue par d'admirables routes, on ne voit pas comment la terre française eût pu demeurer en dehors de l'ensemencement évangélique. Il est même possible que saint Paul ait fait escale dans les ports de la Narbonnaise au cours de ce voyage vers l'Espagne qu'il envisageait dans sa lettre aux Romains, mais dont nous n'avons pas la preuve qu'il l'a réalisé. En fait, la province narbonnaise d'alors, Provence d'aujourd'hui, est pleine de légendes qui la voient évangélisée par des proches de Jésus. On raconta, à l'époque des croisades, que toute la famille de Béthanie était venue finir ses jours en Provence. Marie dans la grotte de la Sainte-Baume, Lazare à Marseille, dont il fut le premier évêque, Marthe à Tarascon. Là, Marthe avait étranglé la Tarasque, un dragon femelle qui dévorait les animaux domestiques et les enfants. Ce fut ce qui détermina les Tarasconnais d'alors à rechercher ces reliques. Ils les retrouvèrent, en 1187, construisirent une église pour les abriter 10 ans après, en 1197, et prirent la bienfaitrice de leurs ancêtres pour patronne. Et comment ne pas mentionner le pèlerinage cher aux gitans, celui des Saintes Marie de la Mer, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé, en Camargue. Mais ailleurs aussi que de légendes, encore moins, si c'est possible, crédibles. Sainte Aphrodise de Béziers est l'hôte qui abrita en Égypte la Sainte Famille. Saint Amateur d'Autun, le serviteur de la Vierge et de l'Enfant. Saint Amadour de Cahors ne serait autre que Zachée, qui aurait changé de nom après sa conversion. Saint Restitut de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, l'aveugle-né à qui Jésus rendit la vue. Saint Ruf d'Avignon, le fils de Simon le Cyrénien. Saint Martial de Limoges, l'enfant dont Jésus multiplia les 5 pains d'orge et les 2 poissons. Saint Trophime, l'apôtre d'Arles, est un disciple direct de Saint Pierre, et Crescent, premier évêque de Vienne, celui que Saint Paul envoya en Gaule. Saint Denis de Paris n'est autre que l'Aréopagite que l'apôtre convertit. Rennes revendique Saint Luc, et il n'est membre du groupe des 72 apôtres en second qu'on ne cite ici ou là en France comme fondateur soit de son église, soit de son diocèse. En fait, c'est à partir du milieu du IIIe siècle que des communautés chrétiennes s'organisent dans un certain nombre de villes des Gaules, Arles, Vienne, Narbonne, Toulouse, Paris, Reims, Trèves, Autun, Chalon-sur-Saône, Sens, Soissons, Bourges, Bordeaux. Encore que les campagnes dussent rester réfractaires ou à peine entamées jusqu'au temps de Saint-Martin, qui s'en fit l'apôtre à la fin du IVe siècle, la christianisation de la Gaule, qui dès la fin du IIe siècle avait, d'après le témoignage d'Irénée, dans la préface d'Adversus Hereses, atteint les couches profondes d'une partie de la population, se trouvait en bonne voie au moment où cessa, en 313, l'hostilité de l'Empire contre l'Église. Avant de clore cette première partie de notre exposé, celle qui porte sur le temps des persécutions, je voudrais revenir rapidement sur la figure qui domine la Gaule de ces siècles, au point de vue qui nous intéresse, celle de Saint Irénée. C'est le premier véritable théologien de l'Église. La doctrine de Saint Paul, si effacée chez la plupart des auteurs du IIe siècle, reçoit chez lui un vigoureux relief, et semblablement l'évangile de Saint Jean, qui chez les apologistes n'apparaissait qu'au second plan, écrit Jules Le Breton. Le grand livre d'Irénée, la manifestation et la réfutation de la fausse gnose, plus connue comme l'Adversus Hereses. On tient de lui également un ouvrage plus mince, la démonstration de la prédication apostolique, qui n'a été redécouvert qu'en 1904. L'Adversus Hereses confond les hérésiarques Basilide, Valentin et Marcion, mais surtout constitue la première et admirable synthèse de la foi. C'est chez lui aussi qu'on trouve la première affirmation de la primauté romaine. De toutes les églises, écrit-il, la plus grande et la plus ancienne, connue de tous, a été fondée et établie à Rome par les 2 très glorieux apôtres, Pierre et Paul. C'est avec cette église, en raison de l'autorité de son origine, que doit s'accorder toute église, c'est-à-dire tous les fidèles venus de partout, et c'est en elle que par ses fidèles a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Il était de Smyrne, l'actuel Izmir, en Asie mineure, ou ainsi qu'il l'écrit, il avait dans son enfance connu le bienheureux Polycarpe, dont il pouvait dire en quel endroit il s'asseyait pour parler, quel était le caractère de sa vie, son aspect extérieur, les entretiens qu'il avait avec le peuple, comment il racontait ses relations avec Jean et les autres disciples qui avaient vu le Seigneur, comment il rappelait leurs paroles et les choses qu'il leur avait entendu rapporter au sujet du Seigneur, de ses miracles et de son enseignement. Après un séjour à Rome, Irénée vient à Lyon, où il est le témoin de la terrible persécution qui s'abat sur la communauté chrétienne. Il contribue à rédiger la relation qui nous l'a fait connaître et en communique le texte aux chrétiens de Rome. 12 ans plus tard, il intervient auprès de l'évêque de Rome, Victor, pour calmer son irritation et son impatience. Celui-ci ne supportait pas que les églises d'Asie célébrassent Pâques chaque année le 14 du mois de Nisan, à l'anniversaire exact de la résurrection du Christ, même lorsque cette date ne coïncidait pas avec un dimanche. Les autres églises, comme Rome, s'en tenaient au dimanche. Victor s'apprêtait à excommunier les Asiates, lorsque Irénée le persuada que l'affaire n'était pas si grave et qu'on pouvait bien admettre qu'ils restent fidèles à leur tradition. On le voit, en cette occasion comme à propos des faillis pour lesquels il exhortait à la miséricorde, Irénée fit œuvre de paix conformément à son nom qui signifie effectivement en grec le pacifique. Nous avons déjà dit qu'il remplaça Potin à la tête de l'église de Lyon. Il mourut vers l'an 200, dans des conditions que nous ignorons. Rien n'authentifie la tradition qui le donne comme un martyr. La Gaule chrétienne au IVe et Ve siècle, principalement à Arles, à Poitiers et à Tours. Arles. En 314, se tient à Arles, sous l'égide de l'empereur Constantin, un concile qui réunit les évêques de l'Occident. Concile important en particulier parce qu'il condamne le mouvement schismatique commandé par l'évêque numide Donna. Ce schisme, alors à son début, vivra 2 siècles, et après s'être caractérisé par le rejet des évêques faillis ou suspects et l'exigence rigoriste, versera dans la jacquerie et le brigandage. Ce n'est pas par hasard que ce concile se tient dans cette ville provençale où l'on admire aujourd'hui encore tellement de vestiges romains, un théâtre, des arènes, l'immense nécropole des Aliscans, les cryptofortiques du Forum, quantité de sarcophages et de statues. Arles est la ville de Constantin, Ups Constantina. Il y réside jusqu'au moment où il décidera, 15 années plus tard, de transférer sa capitale sur les bords du Bosphore. Donc la prépotence Aulas est une ville impériale. Arles, qui depuis le concordat de 1801 n'a même plus d'évêque, a bel et bien été, à cette époque, la métropole chrétienne des Gaules. Rôle, nous l'avons vu, qui fut précédemment joué et qui le sera de nouveau au 7e siècle par Lyon. Vers 392, le préfet des Gaules, qui résidait à Trèves, la belle cité des bords de la Moselle, dut se retirer devant l'invasion barbare. Il vient se réfugier à Arles, qui devenait ainsi le centre du gouvernement de toute la Gaule. L'évêque s'attribua alors, d'une façon similaire et à l'imitation des pouvoirs civils, des prérogatives sur les autres évêques de la région. Au concile de Turin, en 401, le mot de métropole fit son apparition. Et la question se posa de savoir à qui du siège de Vienne ou de celui d'Arles devait être attribué le pouvoir métropolitain sur tous les évêques de la région. Le 22 mars 417, le pape Zosime conféra à l'évêque d'Arles une série de privilèges extraordinaires, dont le principal était le pouvoir d'ordonner seul les évêques dans les trois provinces de Viennoise, Narbonnaise première et Narbonnaise seconde. Le pape spécifiait en outre que tout clerc des Gaules qui voudrait s'absenter du pays devrait auparavant se munir de lettres testimoniales émanant de l'évêque d'Arles. Par la suite, le pape continua à s'adresser à l'évêque d'Arles lorsqu'il voulait manifester ses décisions à l'ensemble des églises de Gaule. Cette prérogative du siège d'Arles, de servir d'intermédiaire entre la papauté et les évêques de Gaule, constitue à proprement parler la primatie. Elle subsista sous cette forme jusqu'au VIe siècle, mais en 813 encore on tenait un concile dans cette ville, un concile après beaucoup d'autres qui s'y étaient tenus précédemment. Ajoutons qu'à cette époque de sa puissance, Arles brille aussi par la sainteté de ses évêques. 5 d'entre eux, au moins, sont canonisés sur moins de 2 siècles. Honorat, Hilaire, Césaire, Aurélien et Vigile. C'est au premier d'entre eux, Honorat ou Honoré, qu'on doit la fondation du célèbre monastère de Lérins, un des hauts lieux de la Gaule chrétienne. Et les autres, ces autres grands évêques, sont sortis de Lérins. Lérins fut un magnifique foyer de spiritualité et de conquête, une pépinière d'évêques et de prédicateurs illustres qui firent aller de pair le souci de la perfection morale et celui de l'apostolat. Ce fut le centre d'une culture monastique très haute, dont le souvenir ineffaçable restait présent malgré les soucis ultérieurs à tous ceux qui y avaient goûté. Un foyer d'éducation où se forma un cadre nouveau d'évêques moines, à la fois ascètes, théologiens et chefs. Là se sont formés les métropolitains d'Arles et aussi Eucher de Lyon, Valérien de Simiez, Maxime et Faustus de Riez, sans parler de prêtres à l'esprit pénétrant comme Vincent de Lérins, l'auteur du Commonitorium, la foi commune. Ils ont presque tous laissé un grand renom d'orateur. Ils eurent un sens très vif de l'autorité. Leur morale vigilante ne se contentait pas d'un acquiescement commode de la foi ou de la piété sans les œuvres. En garde contre le prédestinationnisme augustinien, et de ce fait parfois suspect de pélagianisme, ils admettaient pourtant l'enseignement de l'Église sur la réalité du péché originel et la puissance de la grâce. Le plus grand d'entre eux fut sans doute Césaire, le métropolite d'Arles, modèle d'évêque des pauvres, inlassable providence des prisonniers, pour le rachat desquels ils n'hésitaient pas à vendre l'argenterie de l'Église et les vases sacrés. La règle, toute de mesure et de sagesse, qu'il donna au monastère de sa fondation, ses sermons, courts, simples et directs, que lui empruntèrent des siècles durant les prédicateurs, gardent un accent singulièrement moderne. Enfin, avant de quitter les rivages ensoleillés de la Méditerranée, nous n'aurons garde d'oublier Cassien, Jean Cassien, élève là-bas et maître ici, ce contemporain d'Augustin et d'Honorat, il vécut de 360 à 435, joua un rôle de première importance dans le passage de l'idéal monastique d'Orient en Occident. Originaire de la Scythie inférieure, le sud de l'actuelle Roumanie, longtemps cénobite puis ermite dans les déserts de Bethléem et de Sété, il vécut à Marseille les 20 dernières années de sa vie et y fonda 2 monastères, Saint-Victor pour les hommes et Saint-Sauveur pour les femmes. Ses institutions cénobitiques et ses conférences, on dirait aussi bien interviews, car il rapporte les entrevues qu'il a eues avec les abbas égyptiens, les pères du désert. Eh bien, ses écrits ont fait école, et il ne serait certes pas sans intérêt d'analyser à sa suite les étapes de l'ascension spirituelle. Le grand Benoît de Nursie, qu'il précède de plus d'un siècle dans l'histoire, s'inspirera de ses leçons de prudence et de mesure. D'Arles, passons à Poitiers. C'est un autre haut lieu de la Gaule chrétienne que Poitiers. Autant de monuments témoignent encore de la richesse de son passé. Et Poitiers, c'est d'abord Hilaire, l'Athanase de l'Occident, l'adversaire intrépide d'Arius, l'auteur des 12 livres du De Trinitate qui s'achève par cette prière « Fais, ô mon Dieu, que je garde toujours fidèlement ce que j'ai confessé dans le symbole de ma régénération, moi qui ai été baptisé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que je t'adore, toi, notre Père, et avec toi, ton Fils, que je mérite ton Esprit Saint, qui est de toi par ton Fils unique. » Né d'une famille païenne vers 315, il se convertit et reçut le baptême à 30 ans. Il a raconté dans le prologue du De Trinitate qu'il étudiait les philosophes païens et que son âme ne pouvait se satisfaire de cette multitude de divinités qu'on adorait autour de lui, Jupiter, Apollon, Mercure, Mars, Hercule, etc., ni même de ces cultes venus d'Orient, Attis, Cybèle, Mitra. Pour lui, Dieu ne pouvait être qu'unique. Il tomba alors sur les livres de la Sainte Écriture, qui lui apprirent le culte du vrai Dieu. Il découvrit le prologue de l'Évangile de Jean, qui lui révéla l'existence du Verbe, de la parole qui était auprès de Dieu et qui était Dieu. Ce fut une illumination décisive et définitive. 5 ans plus tard, Hilaire devenait l'évêque de sa ville de Poitiers. Mais quelques années après, en 356, l'empereur arien Constance l'exilait à l'autre bout de l'Empire, en Phrygie, au beau milieu de l'Asie mineure. Il y resta 3 ans, ne perdant pas la morale. « Nous sommes joyeux dans notre exil, » écrivait-il, « nous exultons dans le Seigneur. » Il ne perdit pas non plus son temps, il y rédigea plusieurs ouvrages. Rendu à la liberté, il continua son combat contre l'arianisme, sans négliger aucune des tâches d'un saint évêque. Il mourut en 367. Malgré l'importance de son œuvre, c'est notre plus grand docteur avec saint Irénée. Il n'était pas encore officiellement proclamé docteur de l'Église au milieu du XIXe siècle. Mais Poitiers avait alors un évêque décidé, influent et célèbre, le cardinal Pie. Pour appuyer sa requête, ce cardinal réunit à Bordeaux du 15 au 30 juillet 1850 un synode d'évêques qui obtint de Pie IX que justice fut rendue à l'Athanase de l'Occident. Et il fut effectivement proclamé docteur de l'Église. Nous ne quitterons pas les rives paisibles et charmantes du Clain sans nous rappeler 2 autres témoins de l'importance de Poitiers au siècle lointain de notre histoire chrétienne, Radegonde et Venance Fortuna. Quelle vie que celle de sainte Radegonde. Princesse de Thuringe, enlevée par les Francs vainqueurs, ses qualités physiques et celles de son esprit, séduisirent son geôlier, le roi Clotaire, une brute lubrique, qui en fit son épouse, quand il avait déjà quantité de concubines et de bâtards. Elle le supporta longtemps, 20 ans. Mais quand il eut fait mourir Baderic, ce frère tendrement aimé que Clotaire avait arraché avec elle à la Thuringe, elle quitta la cour et se réfugia dans le monastère de Poitiers qu'elle avait fondé. Son rayonnement, sa piété, ses miracles eurent 2 chantres d'une qualité exceptionnelle en ce barbare VIe siècle, Grégoire, évêque de Tours, l'auteur de l'Histoire de France, et surtout Venantius Honorius Clementianus Fortunatus, Venance Fortuna, qui naquit vers 530 et mourut vers 600. Ce lettré italien, né près de Trévise et guéri d'un mal Dieu grâce à des reliques de Saint Martin, s'était rendu en Gaule pour accomplir un pèlerinage d'action de grâce auprès de la tombe du Thaumaturge. Venu vers 567 jusqu'à Poitiers, où le tombeau de Saint-Hilaire attirait aussi les pèlerins, il s'y installa, retenu en ce lieu par sa dévotion envers Radegonde. Entre ces deux âmes d'élite s'établit un lien d'affection durable que traduisent les nombreux billets adressés par Fortuna à sa mère Radegonde. Le poète servait de secrétaire à la moniale, se faisant son interprète auprès des évêques et des abbés dont elle sollicitait les prières, écrivant aussi en son nom aux princes de ce monde. Après la mort de Radegonde, Fortuna devint évêque de Poitiers. C'est sans doute le meilleur littérateur de ce siècle. On lui doit les vies de Radegonde, d'Hilaire, de Marcel et Germain de Paris, de Séverin de Bordeaux, de Paterne d'Avranches, d'Aubin d'Angers, et parmi ses poèmes, certains occupent encore une belle place dans nos liturgies, ainsi le Pange Lingua Gloriosi Corporis Mysterium, ou encore le Vexilla Regis Prodeunt Fulget Crucis Mysterium, qu'il composa en 569 pour l'arrivée à Poitiers d'un morceau de la vraie croix que l'empereur de Constantinople Justin II envoyait à Radegonde. Arles, Poitiers et Tours. À Tours, on voit encore une basilique reconstruite au début de ce siècle et assez quelconque, qui couvre les restes de Saint-Martin. Pendant un millénaire, ce lieu a été l'un des centres de pèlerinage les plus fréquentés du monde chrétien. La dévotion qu'on a portée à Saint-Martin est énorme. Homère Englebert assure que pendant 10 siècles, il fut pour les Français le plus grand saint de la France, sinon du paradis. 3600 églises françaises lui sont dédiées et 485 localités françaises portent son nom. Dans notre diocèse de Bayonne, il est le patron de 59 paroisses. Plus d'une paroisse sur 10 est placée sous son patronage. Martin n'était ni gaulois ni français de naissance. Il vient de loin, comme bien d'autres des grands évangélisateurs de notre pays, asiates comme Irénée, irlandais comme Colomban, italiens comme Cassien ou Fortuna, allemands comme Radegonde. Lui, Martin, vient de Pannonie, une région de l'actuelle Hongrie. Et l'on se rappelle, y a-t-il dans le sanctoral d'épisodes plus connus et plus souvent représentés par les peintres, comment, en garnison à Amiens, par un froid matin d'hiver, quand il n'est pas encore baptisé, il donne à un pauvre la moitié de son manteau et le Christ lui apparaît la nuit suivante, revêtu de cette moitié de manteau. N'entrerons pas dans les détails de cette grande vie qui couvre une importante partie du IVe siècle, de 317 à 397. Le zèle et l'autorité de l'apôtre des Gaules, le bruit de ses missions, de ses fondations et de ses miracles, lui donnent une place éminente dans l'histoire religieuse de l'Occident. Rappelons surtout deux choses, qu'il fonda les premiers monastères établis sur le sol des Gaules, à Ligugé et à Marmoutier, cela plus d'un siècle avant les fondations de Saint-Benoît, et aussi qu'on le donne comme l'évangélisateur des campagnes, où il combattit avec une extraordinaire énergie le polythéisme, la sorcellerie et la superstition. Les Gaules ont connu d'autres apôtres de grand mérite, sur lesquels il ne serait pas vain de s'arrêter, Avite de Vienne, Sidon Apollinaire de Clermont, Aignan d'Orléans, Aubin d'Angers, Delphin de Bordeaux, Eucher de Lyon, les deux Germains, celui de Paris, de Saint-Germain-des-Prés, et l'Auxerrois, Guénolé, abbé de Landévennec, Médard de Noyon, Paterne, né à Poitiers et évêque d'Avranches, Prosper d'Aquitaine, Vaast d'Arras, Victrice de Rouen, sans oublier le grand Colomban, ni la patronne de Lutèce, Geneviève, qui protégea la ville de la famine comme de l'invasion d'Attila. Aucun n'a la taille ni l'importance de Saint-Martin. Et venons-en pour la dernière partie de cet exposé sur l'église sous les Mérovingiens. Reims, Noël 496 ou 498 ou 499, la date n'est pas sûre. Le baptême de Clovis et de nombre de ses guerriers, 3000 d'après Grégoire de Tours. Est-ce le baptême de la fille aînée de l'Église ? La fille aînée non pas par l'âge, il y en a beaucoup de plus vieilles, mais parce que la plus grande, la mieux développée, la plus utile à la papauté. Désormais, Dieu pourra agir par les Francs, gesta Dei per Francos. Il ne faut cependant pas majorer l'importance ni l'avantage du baptême de Clovis. À la fin du Ve siècle, la Gaule est déjà largement chrétienne. Hilaire, Martin, Césaire et combien d'autres sont déjà passés par là. Le peuple gallo-romain est chrétien et catholique. Quant aux Goths de l'Est et de l'Ouest, aux Burgondes, aux Vandales, aux Suèves, aux Francs, ces peuples conquérants et dominants ne représentaient en somme que des bandes guerrières que la paix, l'enracinement en terre romaine, le contact de populations catholiques devaient inévitablement assimiler à celle-ci. Des causes diverses entraînèrent la conversion du roi franc. L'influence de son épouse, Clotilde, les miracles dont il fut le témoin sur le tombeau de Saint-Martin, l'avantage qu'il prit à Tolbiac contre les Allemands après qu'il eut prié le dieu de Clotilde, et sans doute surtout le progrès des idées chrétiennes et le souci d'assurer l'unité religieuse dans son royaume, royaume qui prit les dimensions d'un empire par ses victoires sur le patrice romain Syagrius, puis sur les Allemands, les Burgondes et les Visigoths. Les évêques se persuadèrent-ils qu'il tenait en lui un protecteur efficace? Sans doute. L'un d'entre eux, le métropolitain de Vienne, Avit, lui écrivait « Votre foi est notre victoire ». Or, cette protection prit la forme d'un asservissement. Désormais, pour des siècles, rien ne se passe dans l'Église sans l'initiative ou le consentement du roi. Ni les conciles, ni les synodes, ni les nominations des évêques, ni ceux des abbés de monastères. Évêchés, abbayes, cures importantes deviennent des bénéfices que le roi ou les grands distribuent à leurs favoris. Dagobert, par exemple, dès le début de son règne, confisque des biens ecclésiastiques pour satisfaire ses leudes, ses compagnons de combat. Les évêques mérovingiens sont au service des rois, d'autant qu'ils sont souvent choisis parmi les fonctionnaires du palais. Dès lors, parmi les dignitaires de l'Église, à côté d'honnêtes gens, écrit Monseigneur Duchesne, que de tristes personnages, ignorants, ivrognes, avares, cruels. Le même auteur qualifie de lamentable la situation de l'Église franque. Sans doute, dit-il encore, les peuples vainqueurs avaient accepté la loi chrétienne, mais il s'en faut que dans les piscines baptismales, abordées sans préparation, ils eussent laissé leur brutalité native. À la moindre contradiction, on la voyait reparaître. Il n'était pas facile de les plier aux lois de l'Église, surtout à celles du mariage, ni de leur faire respecter le droit d'asile, ni de se défendre contre leur cupidité spécialement excitée par le patrimoine ecclésiastique. L'histoire des successeurs de Clovis est une suite de noirceurs et d'infamies criminelles. Vers le milieu du 7e siècle, après Dagobert et le bon Saint-Éloi, commence la série des rois fainéants. L'âpre sève de la première race, écrit Augustin Thierry, s'affadit promptement, et les fils de Clovis tombèrent vite du pavois dans un fourgon traîné par des bœufs. Derrière ces fantômes parurent les puissants maires du palais. Et avec eux s'annoncent leurs descendants, ces Carolingiens, qui vont tant compter dans l'histoire de l'Église d'Occident et dont nous vous entretiendrons dans notre prochaine séance.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 7e épisode, la mouvance carolingienne.